Bonjour, bonjour. J'essaye de mettre... Voilà, ça fonctionne. Ok. Bonjour à chacun. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, si vous en avez eu, ou que vous allez en passer, si vous n'en avez pas encore passé. Et puis si vous n'en passez pas du tout, ben, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé des très bonnes vacances. Je savais que je devais prêcher aujourd'hui, depuis un petit moment. C'est assez rare chez moi, mais ça faisait bien facilement 3 semaines que j'avais eu à cœur quelque chose de fort. Le Seigneur m'avait réveillé la nuit et j'étais sûr de ce que je voulais partager. Donc, totalement serein, j'avais mes petites notes et tout, tranquille. Voilà. Puis, il y a 2 jours, changement de programme de la part du Saint-Esprit. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je vous parle aujourd'hui de la compassion. Voilà, si vous avez un mot à retenir, c'est le mot compassion. On parle souvent de passion en fait c'est bien d'y ajouter aussi le mot compassion. Donc je voulais commencer par la passion. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de passionné? Le petit Robert nous dit que on peut être passionné de ou pour avoir une inclination, une inclinaison pour quelque chose. Quand on a une passion, c'est quelque chose auquel on pense tout le temps. Voilà. Donc, si on peut définir une passion, ça peut être une façon de le définir d'après le petit Robert. Mais j'avais envie de le définir par l'exemple. Et la semaine passée, on était à Saint-Malo, et il y a le pasteur qui a utilisé cet exemple, mais pas du tout dans ce même contexte. Mais je me suis dit que ça pouvait bien vous parler aussi. Voilà. On a 2 types de nageurs. Moi, vous, j'imagine. Et puis, on a un autre nageur. On est tous des nageurs. Mais on a quelqu'un qui est passionné. Et puis, on a des nageurs lambda, j'ai envie de dire. D'accord ? Et il y a une grosse différence entre ces nageurs. Vous voyez, on a 21 ans, 4 médailles d'or, 5 médailles d'or. Ah, 4 en or, 1 en bronze. Bon, excusez-moi, moi je ne suis pas hyper passionné par le sport, soyons précis. Malgré tout, je suis obligé de constater et de voir la passion qui anime ce jeune. Et dans une de ses interviews, j'ai été regardé sur RTL, il disait que ma vie, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de hasard, on ne devient pas champion du monde à 21 ans sans rien faire. 3-4 heures par jour à intensité élevée. 1 minute de repos sur 2 heures d'entraînement, on ne parle pas, ce n'est pas fun. 5 à 6 repas par jour, mais l'intensité des entraînements est telle qu'il n'y a pas de prise de poids. Donc voilà, il y a un régime alimentaire très spécifique pour devenir le number one. Alors du coup, face à tous ces points un petit peu négatifs entre le temps d'entraînement, les repas, il n'y a pas de fun, on est tout seul dans la piscine, ça. Il disait, mais il est où ton plaisir? Le journaliste disait, c'est quoi ton plaisir de faire ça, du coup? Et il disait que justement, son plaisir, c'est d'être avec les autres. Donc il n'est pas tout seul dans le bassin, il est avec d'autres pros. Voilà. Et lui, c'est le fait de se challenger avec les autres, c'est ça son plaisir. Mais il disait que les résultats et les JO, c'était pas son objectif. Lui, c'était sa vie, c'était son entraînement. Vous voyez, il est vraiment conditionné pour bosser, bosser, bosser. Voilà ce que c'est que quelqu'un de passionné. Alors, je pense que vous avez réussi à faire la différence. Moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas passionné par la natation. Ça, c'est clair. Et je trouve ça... Pourtant, j'en ai fait beaucoup quand j'étais enfant, mais je trouve ça un petit peu ennuyant. Mais après, voilà, on a tous des objectifs différents et des passions différentes dans la vie. C'est ça qui est intéressant, on n'est pas tous pareils. Mais en conclusion, pour définir ce que c'est que quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a une vie axée sur quelque chose pour lequel on consacre son temps, son énergie, son régime alimentaire, ses fréquentations, parce que vous imaginez bien qu'il ne va pas faire pump it up toute la nuit là, dans les boîtes de nuit. Non, lui, il se couchait très tôt. Donc ses fréquentations, son argent, parce que ça coûte. Il a un entraîneur aux États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est des sous qu'il faut avancer et qu'il faut avoir. D'accord ? Donc c'est un coût. Tout ça est axé sur sa passion, son objectif, devenir le meilleur. Vous voyez l'image de cette passion. Et d'où vient la passion ? Alors, d'où vient la passion ? En général, elle ne vient pas de loin. Si vous voyez ces deux personnes, à gauche, vous avez Xavier Marchand, son papa, qui est lui aussi champion, je n'ai pas noté toutes les médailles, mais bon, on va peut-être me reprendre, champion lui aussi. À droite, la maman Céline Bonnet, elle aussi championne, en tout cas elle a participé aux JO aussi en 92 ou 93, je crois. Donc on a envie de dire, les chats font pas des chiens, d'accord. Léon, il n'est pas tombé dans la piscine par hasard, même si les parents ont dit qu'ils n'ont pas poussé leur fils à être comme eux. Malgré tout, ben, il a vu leur exemple. Il disait que quand il voyait toutes les médailles des parents, il s'est rendu compte que ses parents, c'était pas rien, quoi. Ils avaient quand même, ils étaient différents de tout le monde, vous voyez. Et il a eu envie, lui aussi, de ressembler à ses parents. Donc, la passion, elle vient de soit la transmission par les parents, soit par une expérience. Et ça nous donne quand même à nous, parents, une sacrée responsabilité en termes de dire, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Est-ce que je vais leur transmettre rien, d'être oisif, ou est-ce que je vais leur donner, justement, comme Léon Marchand, l'envie de se dépasser, de se surpasser? Parce qu'il y a aussi ce... Je ne sais même plus lequel, je vous avoue, à un moment donné, je crois que c'est en papillon. Voilà, il était au coude à coude avec l'Américain, Mathieu, c'est ça? Et... à Hongrois, merci, excusez-moi, moi je suis pas dedans. Donc voilà, il était au coude à coude et j'ai juste vu la fin où il a vraiment dépassé, il a rattrapé et dépassé. Et en fait, le journaliste disait, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il a dit, c'est le mental. C'est juste que dans sa tête, il a dit, non, je vais pas lâcher, je vais gagner. Et il a pas le physique forcément de tous les nageurs, il est pas comme tous les nageurs. Les nageurs sont tous beaucoup plus larges que lui, beaucoup plus grands. Mais lui, en fait, il a son mental en tout cas et il a pu gagner. Donc voilà, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'inspirant du coup, parce que du coup il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la natation suite à Léon Marchand, donc voilà, c'est inspirant et ça peut nous inspirer également. Dans la Bible, on parle aussi de passion, mais c'est souvent un terme qui est remplacé par le mot zèle. Donc dans Ésaïe 26:11, Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas, ils verront ton zèle, donc ta passion pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Bon. Dans Romains 12:11, ayez du zèle et non de la paresse. Donc le zèle, ayez de la passion et non de la paresse. Dans Galates 1:13-14, donc là c'est Paul, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. C'était quelqu'un de passionné. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc voilà quelqu'un de passionné, et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples d'hommes passionnés dans la Bible. Il y a aussi David qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». On a plein d'exemples de passion, et on peut même dire que Dieu lui-même est quelqu'un de passionné. Et juste pour finir sur la passion dans la Bible, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter, à le remporter. Donc on voit qu'on peut tous courir, mais il y en a un qui va le remporter, le prix. C'est celui qui va être encore plus passionné que les autres. Et... Dieu lui-même est un Dieu passionné. Et il a tant aimé le monde, vous savez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, donc il y a eu tellement de passion pour le monde, qu'il a donné son Fils unique. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, je le réalisais en écrivant ça, on le récite par cœur, mais il a donné son Fils. Est-ce que vous donneriez à votre Fils? Vous imaginez la passion qu'il a eue pour le monde, pour vous, pour moi? Je trouve ça assez fou quand même, ça me dépasse. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est un Dieu passionné. Et d'ailleurs, on a la concrétisation avec la passion du Christ, le film s'est appelé comme ça, la passion du Christ, où Jésus, par passion, va venir donner sa vie pour les hommes. Donc la passion est là aussi dans la Bible, mais c'est pas seulement la passion qui a poussé Jésus à endurer la croix, c'est aussi la compassion. Et la différence entre la passion et la compassion, c'est que la compassion, c'est, ça veut dire souffrir avec. Un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. Il se met à la place de quelqu'un. Et Jésus nous a tant aimés qu'il a pris notre place. Donc, c'est facile de le dire, mais il y a plusieurs versets qui le définissent très bien. Lui qui a porté lui-même nos péchés, il a pris nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Passionné, il a donné sa vie pour que nous puissions remporter la victoire sur le péché. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On est toujours dans l'idée de triomphe. Vous voyez, il y a, juste après ça, j'avais mis une diapo, mais je l'ai enlevée parce que je ne voulais pas être outrancieux. Mais il y a une photo de Léon Marchand qui est avec le drapeau et qui a sa médaille là, et qui est comme ça, bras en croix, et qui porte le drapeau français. Et Jésus, Léon Marchand, lui, il a remporté sa victoire pour lui-même, déjà. Il a remporté sa victoire pour sa famille, on imagine ses parents, la France, vu que ses médailles ont joué un rôle aussi dans le challenge des JO. Mais personnellement, ça n'a aucune conséquence pour ma vie. Enfin, sa victoire, personnellement, ça ne change pas ma vie de tous les jours, en tout cas. Très content pour lui, mais voilà. Par contre, la mort et le sacrifice de Jésus à la croix, ça change le concret de ma vie de tous les jours. Voilà, il y a une grosse, grosse différence. Jésus est mort pour l'humanité, et de sa mort, de sa passion, de sa compassion, eh ben, je suis au bénéfice de cette compassion qu'il a eue pour moi. Et dans Colossiens 2:10, c'est écrit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » La compassion de Jésus ne s'est pas vue seulement au moment de la croix. Il y avait bien des versets aussi avant dans lesquels la compassion est montrée. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Il faut savoir que juste avant ça, le contexte, c'est que les disciples étaient partis prêcher, justement. Ils sont revenus, ils étaient fatigués. Jésus a dit « Mettez-vous à part, mettez-vous de côté. » Ils traversent, ils prennent une barque pour fuir un petit peu cette foule qui les oppresse. Mais la foule les voit, elle les suit, et elle va les accueillir à l'endroit où ils vont, où ils arrivent. Et c'est à ce moment-là que cette phrase arrive. Quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion. Et je ne sais pas si je redis une fois, en fait, ils sont harcelés par cette foule qui est là et qui les presse et qui attend toujours quelque chose d'eux et tout ça. Mais malgré tout, en fait, Jésus les voit et les ému de compassion. Parce qu'il se rendait compte à quel point cette foule était sans berger. C'est pour ça qu'il était ému de compassion. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent, il vient, viens et vois. » Et Jésus pleura. Oui, Jésus pleura. Encore de l'émotion, de la compassion. Il se met à la place de ces gens qui viennent de perdre leur frère et il pleure avec eux. Voilà Jésus qui sait, c'est quelqu'un qui est ému de compassion. Un lépreux va à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Vous voyez, on voit cette compassion de Jésus qui est là tout au long de la Bible, tout au long des évangiles. Et on peut être passionné, et c'est super, mais je pense que si on n'a pas cette compassion qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre, de ce que vit l'autre, eh ben, on peut passer à côté du cœur même de Dieu, en fait. Et j'ai envie de poser la question, et nous, dans tout ça, on en est où? par rapport à notre passion. Est-ce qu'on est des gens, est-ce que nous sommes des gens passionnés déjà? Et aussi par rapport à notre compassion. Est-ce que nous avons de la compassion pour les gens? Alors je ne vous jette pas la pierre parce que personnellement, quand je priais, je disais Seigneur, j'ai l'impression que moi sur le degré de la compassion, l'échelle de la compassion, je dois être à zéro. Mais on peut faire un constat et ensuite ça nous permet d'évoluer, en tout cas de demander au Seigneur de nous aider à évoluer. Et il y a un verset quand même qui est aussi... mince, j'étais trop loin. Excusez-moi, c'est pas celui-là que je voulais. Ah, je me suis trompé. Donc, et nous dans tout ça, où est-ce qu'on est notre compassion? Et j'avais envie de poser quand même quelques questions. Quelle est la dernière fois où tu as agi par compassion? Je vous laisse peut-être 30 secondes. Quelle est la dernière fois où, poussé par la compassion, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je dise quelque chose. Je ne peux pas laisser faire ça comme ça. Ce n'est pas possible. Alors je ne veux pas dire déposer quelques pièces dans la main d'un mendiant. C'est quelque chose qui nous a coûté. D'accord? J'attends quelque chose qui nous a vraiment, véritablement coûté. Quand est-ce que tu as agi par compassion? Quand est-ce que j'ai... Attention, encore une fois, c'est miroir. Hein. Jésus, lui, il a donné sa vie par compassion. Il a perdu son ciel par compassion, perdu ses honneurs. Vous imaginez, le roi des rois, il a tout perdu, il a tout quitté, perdu sa toute puissance. Quand il est arrivé, il était sur terre, il était un simple homme. Il était pleinement homme, il a dû dépendre uniquement du Saint-Esprit. Il a perdu sa gloire, les anges qui le servaient, pour se faire cracher dessus. Il a perdu sa paix, pour prendre les angoisses de la croix, il a perdu la vie. Voilà tout ce que Jésus a fait par compassion. Et nous, qu'est-ce que nous faisons par compassion? Est-ce qu'on fait les choses pour faire les choses, ou est-ce qu'on les fait pousser par une compassion? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. Il avait vu, ce qu'il avait vu, c'était nous qui serions sauvés. C'était nous qu'il allait libérer, guérir. En vue de tout ça, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà ce que la compassion de Jésus l'a poussé à faire. Quelle est la dernière fois où ton cœur a été ému par une personne, par sa situation? Mais vraiment une émotion sincère, pas juste quelques larmes. J'avais déjà parlé de ça, mais à Saül, l'exemple de Saül... À un moment donné, donc quand il était encore vraiment... il venait juste d'être un roi. Et il y a des... je crois que ce sont des... les ennemis, les... les Philistins, merci. Les Philistins qui avaient attaqué, qui avaient volé les Israélites. Et il y a beaucoup de gens qui pleuraient. « Oh, mon pauvre! Oh, les pauvres, ils ont tout perdu! Trop dur pour eux et tout !» Et puis il y a Saül qui arrive, qui entend la même chose, mais qui, en plus, prend ses armes... et va libérer les personnes qui ont été prises en otage. Vous voyez, il y a une compassion qui apporte à l'action. Et voilà, quelle est la dernière fois où tu as été ému par une personne et que cette émotion t'a entraîné à l'action? Encore une fois, je ne jette pas la pierre. Et ça m'a fait penser aussi à des paroles d'une chanson de Kate Green. Je ne sais pas si vous connaissez... ce chanteur des années 70, donc c'est vieux, mais j'avais lu son livre qui s'appelle Sans compromis. Et ce chant, c'est « Mes yeux sont secs, ma foi est vieille, mon cœur est dur, mes prières sont froides. Et je sais combien je devrais être, je sais comment je devrais être, vivant pour toi et mort pour moi. » Voilà, Kate Green, c'est vraiment quelqu'un qui a enflammé, qui a entraîné un mouvement de réveil, au travers de ses chants, mais aussi au travers des paroles qu'il disait. il était rempli de passion, c'était quelqu'un de passionné et qui avait aussi de la compassion. Et du coup, si j'avance un petit peu dans cette pensée, c'est bien d'être passionné, mais ça ne suffit pas. Et dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez bien ce verset, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la compassion, je ne suis rien. » Et ce matin, j'aimerais vraiment laisser sur votre cœur ce terme de compassion. Et ce qui doit faire vivre notre passion, c'est la compassion. On ne doit pas vivre autrement que dans l'idée de se mettre à la place des autres et de dire qu'est-ce qu'ils ressentent. Attention, on ne doit pas, on doit faire, ainsi de suite, c'est très facile. Il n'y a pas de « on doit », « il faut », ainsi de suite, c'est « Seigneur, viens à mon secours ». En fait, c'est important de se rendre compte de notre péché et ensuite de l'abandonner. Pour moi, c'est une démarche qui est très saine, mettre à la lumière et abandonner. L'inverse de la compassion, quand même, c'est important de le savoir. Enfin, c'est ce que moi, j'en ai conclu, c'est une conclusion personnelle. L'inverse de la compassion, c'est l'égoïsme. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui, au lieu de penser aux autres. Vous voyez, je veux dire, c'est assez binaire. Et malgré tout, c'est écrit dans Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » Vous voyez, ils ne seront pas dans la compassion, ils seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. La passion du plus grand nombre se refroidira. Et j'avais vraiment ce verset à cœur avant de commencer. L'amour se refroidira. Quand on veut refroidir un plat, on le met loin de la chaleur. D'accord ? Et j'ai envie de vous dire ce matin, si vous voulez vous refroidir, mettez-vous loin du Saint-Esprit. Mettez-vous loin de Jésus. Mais j'espère vraiment que ce ne sera pas ce que vous voulez faire, mais qu'au contraire, vous allez vouloir que votre amour soit vraiment vivant et chaud. Et avant de passer dans un moment d'appel, on a entendu tout à l'heure que c'était trop beau de voir les jeunes rendre témoignage. Et Tamzine qui disait « J'ai été rempli d'amour pour les autres ». Fabrice qui disait « Aimer et servir la ville de Montélimar ». On est tous appelés, les amis. Il n'y a pas nos chers Luc, Kat, les Ferraro qui sont si formidables, Gilles, enfin tous ceux qui sont dans le camion douche qui sont formidables. Et quel exemple vous êtes, les amis, pour chacun de nous, et quelle claque vous nous mettez dans tout l'investissement que vous donnez de manière spontanée. Et combien ouais, vous êtes des exemples. Et j'ai envie vraiment de le dire, voilà, vous êtes vraiment des exemples. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont appelés à faire ça. Et on n'a pas d'excuses. On n'a pas. Ce matin, on disait, ouais, on a envie d'investir dans la jeune génération. Et je trouve ça génial. Mais on est tous appelés, les amis. Il n'y a pas de jeune génération qui vont faire le truc. Et puis les autres, on les regarde faire. On dit, bravo, amen. On les encourage. On prie pour vous. Non, non, mais toi aussi, tu peux y aller. Toi aussi, tu peux faire quelque chose. Toi aussi, tu es appelé. D'accord ? Le Seigneur dit, allez par tout le monde. Pars. Va. Fais quelque chose. D'accord ? C'est pas. Donnez à vos responsables, dites à vos responsables d'aller par tout le monde. Non, c'est aller par tout le monde. Toi, vas-y, chacun, allons-y. Ah, encore une fois, je le dis à moi-même, allez par tout le monde. Donc, juste en allant vers la fin, je voulais qu'on fasse un bilan vraiment très honnête. Très, très honnête de notre état, en fin de compte. Où en est ma compassion ? Sérieusement, sincèrement, où est-ce que j'en suis au niveau de la compassion ? La compassion, on peut, on peut l'avoir, c'est sûr qu'on a le cliché dans la rue, on voit quelqu'un en détresse, mais la compassion c'est tous les jours, en fin de compte. Hein. C'est quand je suis au travail, quand je suis avec ma famille, j'ai mon enfant qui a fait une bêtise, je peux avoir compassion. Ma femme aussi, mon mari, je peux avoir compassion. D'accord ? Il est fatigué, je peux avoir compassion. Elle est fatiguée, je peux avoir compassion. Ça peut être aussi mon salarié. Je vais avoir compassion, je vais me mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il vit vraiment ? Moi, ou quand on est dans, on est peut-être cadre, ben, ceux qui sont en dessous de moi, comment... Tout ce que je leur demande là, est-ce que c'est... Est-ce que moi, si j'étais à leur place, est-ce que je ferais la même chose ? Est-ce que j'en donnerais autant de travail peut-être ? Est-ce que j'en donnerais pas un peu moins ? Et inversement, si en tant que salarié, si j'étais à la place de mon patron, est-ce que je supporterais cette pression qu'il vit ? Est-ce que... comment je me comporterais si j'étais à sa place ? Est-ce que j'aurais vraiment le même discours que j'aime ? Vous savez, même par rapport au président, on est facile à dire, voilà, franchement, on n'aurait pas fait ça. Mais moi, toi, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Vous voyez ? C'est facile d'être toujours dans le jugement. Mais mettons-nous dans la compassion. Et faisons grâce, les amis. Vous voyez ? Même avec ceux qui ont péché autour de nous. Faisons grâce plutôt que d'être dans le jugement. Et le pasteur, la semaine passée, a utilisé l'image forte, vous savez, qui était... où il y a la fameuse scène de l'ouverture des JO, là, où il y a en haut le tableau, et puis en dessous la mise en scène qui a été faite pour les JO, qui a quand même choqué toute la communauté chrétienne. Et il disait, en fait, ce qui me manque dans ce tableau, c'est Jésus. C'est tout simplement Jésus dans la scène du bas, il parlait, hein, avec les personnes, les drag queens, ainsi de suite. Ce qui me manque dans cette scène, c'est Jésus. C'est pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce qui manque, c'est Jésus. Parce que Jésus, lui, il était parmi les prostituées, les gens de mauvaise vie. Lui, il était au creux de la misère, quoi. Au plus profond de la misère. Jésus était là. Et c'est tous les jours qu'on voit ces gens autour de nous. Et c'est tous les jours qu'on est appelé à avoir compassion. Et plutôt que de les juger en disant, pétard, mais comment il s'habille? C'est quoi ce look? Ou je sais pas, toutes les pensées qu'on peut avoir, et moi le premier. Mais mettons-nous à leur place. Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Pourquoi ils en sont là ? Comment ils en sont ? Quels sont les échecs qui les ont conduits aussi bas ? Quels sont les morts, en fait ? Ils ont sacrifié, ils ont dit non, ils ont dit stop à plein de choses dans leur vie. Ils sont dégoûtés d'eux-mêmes, en fait, j'imagine. Ils se regardent en se méprisant. Comment ils en sont arrivés là ? Mettons-nous à leur place. Soyons remplis de compassion et faisons un bilan honnête. Où est-ce que j'en suis, moi, avec la compassion ? Et ensuite, vraiment ne pas se voiler la face. Et l'étape d'après, c'est demander pardon. Je crois que ce matin, je ne vais pas faire un appel un peu classique où on se lève et tout ça. Moi, je vous appelle vraiment à entrer en vous-même parce que je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous. Et on n'a pas besoin de se comparer, savoir où est-ce qu'on en est, lui, ah bah tiens, lui, franchement, au niveau compassion, c'est zéro. Non, moi, toi, où est-ce que t'en es, toi ? Et faire un bilan honnête de ma compassion, ou de mon absence de compassion. Et moi, je vous fais un bilan honnête de ma compassion, je me sens tellement loin du cœur du Seigneur. Je me sens tellement pas ému quand je vois... Des foules comme ça qui sont sans berger. Moi, je suis absolument pas ému. Et des fois, je me surprends à avoir regardé une foule et à me dire, mais en fait, j'ai rien ressenti du tout pour cette foule. Voilà, ça, c'est mon cœur. Et je vous le mets là devant vous ce matin parce que je sais que le Seigneur m'entend et que quand on met à la lumière quelque chose, eh ben, le Seigneur est capable de transformer des vies. On a chanté tout à l'heure Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Et ce matin, je ne viens pas pour faire un constat négatif et pour juger, pour dire ah, on est nul ou quoi, mais vraiment je suis là pour nous mettre un petit, un petit claquot dans la tête, mais pour qu'on se réveille, parce qu'il y a plus, on a plus à accomplir, on a plus de compassion à avoir. Mais en fait, on a des guérisons. Je ne sais pas si vous voyez le verset tout à l'heure, quand Jésus est sorti de la barque, il fut ému de compassion et il est guéri. Nous, on est souvent dans l'activisme, mais avant il y a la compassion. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant, il faut être touché par ces gens, par ceux qui vivent, être ému de compassion, avoir nos entrailles qui sont touchées par ces gens, et ensuite agir. Et ce qui est beau, c'est que dans Romains 5, c'est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et ce matin, il n'y a pas de fatalisme, mais je pense que dans cette démarche de recherche, de compassion, une fois qu'on a demandé pardon, et je ne vous demande pas de demander pardon, mais si vraiment vous réalisez que vous manquez de compassion, et si vous avez envie que ça change, eh ben, là, vous pouvez demander pardon et inviter le Saint-Esprit à dire « Saint-Esprit, viens me remplir de ton amour. Viens me remplir de ta compassion. » Vous savez, Jésus, il a intercédé pendant des nuits et des nuits pour les coupables. Est-ce que nous, on est capable de faire ça ? Est-ce que moi, je suis capable de faire ça ? Est-ce que j'ai ce cœur-là d'intercession pour une âme ? Pour une âme, pour mon voisin qui est en train de périr, qui est en train de souffrir ? Est-ce que... Sincèrement, non. Mais Seigneur, pardon. Et viens me remplir de ta compassion. Viens me donner ta compassion. Viens m'inonder de ton esprit. Saint-Esprit, je sentais vraiment ton appel, Seigneur, à cette compassion, que ton Église puisse être émue de compassion. Et ce matin, Seigneur, c'est avec toute l'Église, Seigneur, qu'on veut réclamer cette compassion pour chacun de nous, Seigneur, sur chacune de nos vies, Seigneur. On ne veut pas avoir les yeux secs, Seigneur, mais on veut avoir les yeux remplis de larmes, émus, le cœur brisé, Seigneur, quand des scènes se présentent à nous, quand les gens sont là devant